magazine de la grande matinale, c'est parti, une heure de culture et de société avec Charline Vanhoenacker. Tout à l'heure, on fera notre marché, il sera question de super production de légumes. Toute cette semaine, on vous a proposé une sélection de nouvelles têtes au micro de Daphné Burki. Last but not least, Hugo Bienvenue, le réalisateur du film d'animation Arco, qui est nommé dans 4 catégories au César ce soir. Ce sera donc tout à l'heure dans Nouvelles Têtes. Justement, les Césars, on en parle aussi dans le débat de 9h30. La cérémonie des Césars se tient ce soir sur la scène de l'Olympia avec Camille Cotin en présidente et Benjamin Laverne en maître de cérémonie. Chacun y va de son pronostic. Les journaux ont leur propre palmarès. Parmi les favoris, on retrouve notre nouvelle vague de Richard Linklater, recordman des nominations avec 10 citations, mais aussi Dossier 137 ou encore L'attachement. Alors à qui doit-on remettre le César du meilleur film? On s'en disputera tout à l'heure, mais tout de suite, le grand portrait.
France Inter. La grande matinale. Mathilde Serrel.
Si je vous dis la sentence est irrévocable, il y a de fortes chances que son visage vous apparaisse. Depuis plus de 20 ans sur TF1, il accompagne les téléspectateurs au bout du monde, chemise en jean, torche à la main et verdict au bout des lèvres. La nouvelle saison de Koh-Lanta démarre la semaine prochaine et depuis le lancement de l'aventure en 2001, le jeu est non seulement devenu l'un des programmes les plus suivis en France, mais aussi un objet de pop culture, une référence absolue détournée en boucle sur les réseaux et parodiée avec brio par Jonathan Cohen dans Le Flambeau. À l'heure des prédateurs de l'attention, comment ce show d'un quart de siècle tient-il encore l'équilibre, comme dans son épreuve phare des poteaux? Et comment rassemble-t-il encore les Français sur leur canapé? Au-delà du décor d'île déserte, des épreuves mythiques et des répliques cultes, au fil des saisons, une évidence s'impose. Ce programme, c'est surtout et avant tout lui, son incarnation fidèle, Denis Brognard. Alors, qui est l'homme derrière la torche? C'est notre grand portrait, numéro 97. Et bonjour Denis Brognard.
Bonjour Mathilde.
Vous venez de faire un cours de « Ah !» dans les couloirs de France Inter. Alors « Ah !» c'est votre gimmick, c'est détourné en boucle sur les réseaux. On va y revenir. Benjamin Duhamel a tenté de le faire tout à l'heure.
Mais il est pas mal.
Il avait réexpliqué. C'est quoi un bon « Ah !»
Un bon « Ah !» il faut que ça monte un petit peu le « Ah !»
Mais je trouve
qu'il le fait bien et franchement,
il y a une respiration en dessous.
J'étais pas préparé ce matin à entendre Benjamin Duhamel faire le A. Voilà, donc comme quoi c'est une petite surprise qui met en joie.
Mais quand je lui ai dit on reçoit Denis Brognard demain, il m'a dit ah. Il le fait mieux. Alors pardon, on va commencer par faire les comptes. Koh-Lanta, c'est 28 saisons classiques, 7 saisons All-Stars, 24 ans à le présenter. Vous ne vous lassez jamais, Denis Brognard?
Non, on pose souvent cette question et je réponds toujours par la négative. Parce
pardon
que...
de recommencer, mais on ne sait jamais,
ça pourrait changer. Non, mais vous avez raison, mais c'est vrai que c'est une vieille dame de la télévision. C'est rare dans ce monde très périssable.
C'est pas vous la vieille dame, c'est l'émission.
Oui, de dépasser pratiquement le quart de siècle. Vous savez, quand vous changez de candidat, que vous avez de nouvelles règles, de nouveaux stimuli, vous allez dans des endroits absolument incroyables de la planète, eh bien, vous repartez toujours avec cet entrain, cette envie. C'est un peu comme quand j'étais enfant. En fait, je partais en colo, j'étais super content de quitter ma famille et d'aller en colo, puis j'étais très heureux de rentrer. Eh bien, dans Koh-Lanta, je pars en tournage, et c'est le cas bientôt, avec cette envie de petit garçon, et je rentre avec l'envie de retrouver les miens, mais c'est un équilibre que j'ai trouvé en un quart de siècle. Et que pour l'instant, j'ai envie de conserver.
Vous êtes toujours contente de partir en colo, chaque année?
Exactement, c'est une sorte de grande colo. On est plus d'une centaine, avec pratiquement le double si on compte les gens qui travaillent à nos côtés dans les pays dans lesquels on est, notamment aux Philippines, sur cette dernière saison qui va commencer sur TF1. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très particulier. On est loin des studios de la Plaine-Saint-Denis, on est dans un univers très... très différent, et puis on est sur un programme qui fonctionne bien.
Oui.
Et puis ça correspond à ce que j'aime, l'aventure, le sport, le dépassement de soi, la compétition. C'est vraiment le concentré, le cocktail détonnant de ce que j'aime dans ma vie de tous les jours.
Donc vous ne vous en lassez pas, les téléspectateurs, non plus la moyenne historique, parce que donc sur une vieille dame d'un quart de siècle, c'est si mignon, c'est quand même dingue. Enfin, je veux dire, il y a un Français sur trois de toute façon qui va regarder Koh-Lanta. Et il y a quand même, puisqu'on est dans les métaphores, pour entretenir le piment dans le couple avec les téléspectateurs, des petites choses à inventer chaque année, chaque saison a sa spécificité. Qu'est-ce que vous nous avez préparé cette année? Moi, j'ai entendu parler de peau en terre cuite.
Exactement.
Mais encore.
Alors, si on est un peu plus poétique, on dit, on parle de relique du destin. Parce que le destin va être, va être un petit peu précaire cette année. Quand vous venez au conseil, généralement, vous avez une équipe qui vote, et puis celui ou celle qui recueille le plus de suffrages est éliminé, et j'éteins le flambeau, j'éteins la flamme. Là, cette année, il faut imaginer que dans l'antre du conseil, il va y avoir une partie un peu cachée, dans laquelle il y aura 8 poteries. Dans ces poteries, soit il n'y a rien, soit il y a un collier d'immunité à transmettre par celui qui aura été éliminé par le vote à quelqu'un qui reste, soit, et c'est là le plus important, ça va perturber, mais ça ne change pas l'issue du vote. En revanche, il y a des poteries où il y aura à l'intérieur un message de duel. Imaginez, vous êtes éliminé au conseil, vous avez face à vous ceux qui vous ont éliminé, et là, eh bien, vous avez une chance de revenir avec un message qui vous dit « Choisis parmi ceux qui t'ont éliminé l'un que tu vas défier en duel. »
Ah là, c'est la vengeance d'Edmond Dantès.
Et là, exactement. Et là, celui qui gagne le duel reste dans l'aventure, celui qui le perd s'en va. Et puis, vous avez une autre possibilité, un autre message sur une autre poterie, où là, on vous propose de rester dans l'aventure malgré cette élimination, mais de passer dans l'équipe adverse. Donc voilà, donc c'est vrai que quand vous allez venir au conseil, et c'est la première fois que ce sera comme ça, il y a une forme de précarité, c'est-à-dire que même si vous êtes dans la bonne alliance, même si vous êtes serein, même si vous pensez que vous ne risquez rien, eh bien si vous êtes défié en duel et que vous perdez ce duel, alors c'est vous qui partez. Donc dès que vous arrivez au conseil, il y a une incertitude et donc une inquiétude.
Ouais. Ah, il y a un certain reflet de l'état du monde et de son instabilité dans ce conseil de la nouvelle saison de Koh-Lanta.
C'est intéressant de dire ça, Mathilde, parce que je crois effectivement que Koh-Lanta, c'est un peu une photographie de la vie.
Ouais.
Dans la vie, tout le monde ne s'aime pas, mais il y a des fortes amitiés, il y a aussi des inimitiés, il y a des luttes de pouvoir, il y a des luttes d'influence, il y a des gens qui ont envie de se mettre en avant, d'autres un peu moins. Il y a des gens qui sont très forts au début, puis qui s'éteignent. Il y a des gens qu'on ne voit pas du tout au début, et puis qui se révèlent. Moi, je dis toujours, c'est une photographie de la vie en accéléré Koh-Lanta, avec des gens qui viennent de toutes les régions, de tous les univers, de tous les milieux socio-professionnels, socio-culturels.
Il faut quand même rappeler que le casting, c'est entre 20 000, 30 000 candidatures, puis 20, une vingtaine de participants, avec l'envie de refléter la société. Il faut que les téléspectateurs puissent se projeter, s'incarner. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué là, pendant les castings, dans ce qu'on va voir?
Alors, moi, ce qui me marque, c'est la motivation de ces gens, parce que Koh-Lanta, c'est l'émission la plus difficile proposée, quelles que soient les chaînes, je crois, à des anonymes. Et quand vous vous retrouvez avec des gens que vous ne connaissez pas, avec des épreuves à disputer tous les jours, avec le risque d'être éliminé, cette épée de Damoclès tous les trois jours, avec l'obligation de trouver à manger, parce que si vous ne trouvez rien, vous ne mangez pas. Franchement, j'ai une admiration, quel que soit le résultat des
personne
uns et des autres.
Personne n'arrive avec une banane pour vous sauver.
Non, exactement, personne, non.
Alors, je voudrais qu'on parle de la longévité exceptionnelle de ce programme qui est due aussi, et on l'entend, à votre phrasé, à ce sens de l'épique. D'ailleurs, quand je vous parle de peau en terre cuite, ah, vous me reprenez. Non, ce sont des reliques d'ailleurs.
Bah parce que c'est le thème, c'est
oui,
le titre.
La nouvelle
c'est
saison,
Koh-Lanta, les reliques du destin.
Les reliques du destin. Et vous avez commencé la toute première saison de Koh-Lanta en 2001. Vous étiez voix off, Denis Brognard. Après, c'est vous qui avez présenté. Est-ce qu'il y a dans les textes, dans l'intonation que vous donnez, cet imaginaire de grand roman d'aventure, peut-être, qui vous ont nourri enfant? En tout cas, vous avez adapté pour un programme de télé-réalité un langage flamboyant d'épique et d'aventure.
Oui, c'est vrai. Alors, je dois aussi citer Corinne Vaillant, qui écrit
avec vous.
Et qui produit et qui s'occupe aussi de tout le montage de cette émission. Et voilà. Mais c'est vrai que moi, je me suis nourri des romans d'aventure. Je me suis nourri des Henri de Montfred, des Nicolas Bouvier, des gens qui me transportaient. Parce que faut imaginer que moi, j'ai très peu voyagé enfant. J'allais de camping en camping avec mes parents, mais surtout en France ou dans les pays limitrophes. J'ai pris l'avion pour la première fois à 18 ans, mais je voyageais et dans mes rêves et dans mes lectures. Et c'est vrai que Koh-Lanta, c'est quelque part, à chaque fois que je repars, c'est aussi ce qui explique qu'il n'y a pas de lassitude après tant d'années. C'est aussi un rêve qui, à chaque fois, se réalise et se répète. Et c'est vrai que...
C'est votre rêve d'aventure qui se réalise à chaque fois.
Bien sûr. Mais oui, parce que...
Petit Denis.
Ben oui, du petit Denis, et puis surtout, c'est pour ça que je les aime, ces candidats, et c'est pour ça que j'ai de l'admiration pour eux, parce que c'est la seule émission que j'aurais pu faire en tant que participant, parce que, encore une fois, ça correspond à tous les codes que j'aime. J'aime l'aventure, j'aime le voyage, j'aime le dépaysement, j'aime la compète, et je la vis par procuration avec eux. Je suis l'arbitre, je suis le grand témoin, mais quand j'arrive sur le parcours du combattant de Koh-Lanta, et que j'ai l'épreuve des hommes, puis l'épreuve des femmes, ben je ne sais pas qui va gagner, ça m'excite de voir ça, et je le vis, et je pense que ça
se
traduit
aussi. Comme dans les pages de vos romans.
Exactement.
Et vous faites quoi d'ailleurs la journée, là, quand on passe 40 jours sur une île au milieu du Pacifique, parce qu'ils bossent plus que vous, les candidats?
Ah bah, les candidats, ils bossent plus, c'est sûr. En tout cas, ils sont eux H24. Bah, nous, vous savez, c'est une grosse machine, Koh-Lanta. C'est un travail à la fois, la partie émergée de l'iceberg, c'est la présentation, mais c'est tout ce qui se passe en amont, avec les répétitions, avec ce qui peut être amélioré sur les jeux, avec les constructeurs de jeux, avec le producteur, Julien Magne, avec les gens qui nous entourent, le réalisateur. Et c'est assez chronophage, sachant que c'est une émission qui se déroule jour après jour et qui est finalement à flux tendu. Vous ne savez pas ce qui se passera le lendemain. Vous ne savez pas quelle sera la météo. Imaginez, il y a des jours, on arrive, on dit, avec le vent, le jeu qu'on avait construit hier et qui doit être joué demain, il a été détruit. Il faut le reconstruire. C'est compliqué. Il faut changer des choses. Enfin, encore une fois, c'est un travail de longue haleine. Et puis, c'est surtout une aventure.
Vous avez tous vos petits ateliers dans vos colos, là.
Non, parce que si je vais à l'atelier construction des jeux, là, malheureusement, il n'y aura plus de jeux.
Il n'y a plus de candidats.
En tout cas, plus de jeux, parce que franchement, il me virerait dès le premier jour.
Alors, avant la reprise, donc tous les mardis soirs à partir du 3 mars sur TF1-2, Koh-Lanta, la nouvelle saison, un florilège de moments cultes.
Il n'y a pas de fatigue qui soit.
Je sais que je suis éliminé et qu'il ne mérite pas ce feu, je vais l'éteindre totalement.
Un acte inédit dans toute l'aventure Koh-Lanta.
Même chose pour Koh-Lanta. Ah, t'es un enfoiré, non? Eh ouais, je vous ai fait le feu, j'ai passé 3 jours. Je le referai.
C'est puéril, c'est enfantin, c'est...
Ah, c'est...
Pourquoi être aussi corrompu? Putain! Aucun honneur! Aucune dignité, rien!
Sandro, t'es bête ou quoi? J'étais complètement berné aujourd'hui.
Claire, les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable.
Est irrévocable. Les jeux d'alliance, les disputes, les stratégies, les émotions brutes, c'est fou, non? Qu'est-ce qu'on a entendu? Allez, racontez-nous.
Il y a Sarah qui est une coach sportive et qui, à chaque fois qu'elle était un peu stressée, qu'elle franchissait le Rubicon, elle faisait des pompes pour se calmer. Ensuite, on a entendu Joseph, extraordinaire. On est au premier jour de l'aventure. Il sent que ça tourne pour lui, qu'il y a une alliance contre lui qui va être éliminée. Comme il a fait le feu, il arrive avec une grosse gamelle et il éteint le feu. Sauf qu'il reste quelques braises et le feu peut repartir. Ensuite, on entend Clémentine qui parle à un candidat belge, Sandro, en disant « Mais ça va pas, c'est pas ça la stratégie », qui lui donne une leçon de stratégie. Et puis ensuite, la fameuse sentence irrévocable, c'est-à-dire pour Claire, l'élimination, qui est un moment très très émouvant pour les candidats, a fortiori, quand le candidat qui est éliminé tombe de l'armoire, ce qui arrive de temps en temps, quand les alliances sont suffisamment masquées pour que finalement, tout ce qui se produit au Conseil à travers le vote, soit révélé d'un seul coup par le dépouillement.
On est en prise directe, en fait, avec la tragédie humaine, d'une certaine manière, dans Koh-Lanta. On parle d'anti-Instagram, la direction des programmes de flux de TF1, ça vous paraît bien comme définition, par rapport à tout ce qui est filtré, tout ce qui est scénarisé sur les réseaux?
C'est sûr que Koh-Lanta... On n'a pas besoin de scénariser. Le concept de lui-même est extraordinaire. Vous mettez des gens ensemble dans un lieu magique, mais où il faut tout découvrir, tout faire par soi-même, avec le risque d'être éliminé. Donc, en fait, on les observe, ces gens-là. On leur donne des stimuli à travers les épreuves à disputer et les règles de Koh-Lanta qui sont immuables depuis 25 ans maintenant. Et puis ensuite, à eux de faire leur aventure. Et c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas de lassitude. Parce que chaque aventure
est une nouvelle
différente.
Expérience sociologique.
Ah ben c'est clair. Ben vous savez, il y a des sociologues qui me disent régulièrement, mais c'est une expérience incroyable, c'est une source inépuisable d'informations sur la nature humaine.
Voilà. Alors si l'émission est aussi devenue un objet pop, c'est au-delà des moments.
Non, il faut
cultes.
Le faire un peu plus vers le haut. Très bien Mathilde.
Avec la respiration du dessus, très bien. Alors c'est au-delà des moments cultes aussi grâce à cette parodie que je voudrais qu'on écoute ensemble du Flambeau signé Jonathan Cohen et sa bande.
Tu es bronzé?
Répète-le.
Tu es bronzé Marc.
Redis-le-moi en face.
Tu es bronzé Marc.
Tu le penses?
ou tu dis juste ça pour pas que je parte?
Non, non, c'est très sincère, je le pense. Je pense que tu es bronzé. Et pour tout le monde, d'ailleurs, tu es bronzé.
Oui. Tu es bien bronzé, c'est un beau bronzage.
Ta peau a la couleur d'une châtaigne.
Je suis d'accord avec eux, t'es magnifiquement bronzé.
Il est très bronzé, c'est vrai.
Vous le pensez aussi?
Ah oui, de loin. Vous êtes le plus bronzé d'entre nous, Marc.
C'est la plus belle chose qu'on m'ait jamais dite.
C'est Jérôme Commandeur qui fait le Denis Brognard.
Ouais.
On a entendu Leïla Bekti, Kad Merad, entre autres. Vous avez pensé quoi quand vous avez vu
mais
ça?
Mais j'ai adoré. Et je sais surtout que c'est bienveillant parce que Jonathan adore Koh-Lanta. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans Family Business, il a mis une petite touche de Koh-Lanta avec Igor, le réalisateur. Et que je me suis retrouvé à jouer mon propre rôle face à Jonathan. Son ex-femme s'est triplée et qu'on a organisé dans une jungle sud-américaine. Un conseil où sa famille avait décidé de l'éliminer. Voilà. Mais
et
vous savez, quand vous parlez de pop culture, mais le fait qu'il y ait une parodie de Koh-Lanta, après La Flamme, Le Flambeau, j'ai trouvé ça génial. Je me suis régalé. Et voilà, Jérôme Commandeur dans mon rôle, à part le changement de chemise, je trouve que c'est nickel.
Alors on va l'écouter l'original, le A de Denis Brognard. Ah, voilà.
Il est très court.
Il est très court. Et voilà tout ce qui est apparu depuis en version remix. On écoute.
Que vous auriez en plus dans cette équipe s'il y avait plusieurs garçons? Laurence.
C'est pas toujours Lorraine Cabane.
Mon Dieu, alors ça, c'est version White Stripes, et puis alors, il y en a des kilos, hein.
Mais ça, c'est ce qui révèle ce A, parce que finalement, on a des gimmicks dans la vie, mais le A n'était pas tant que ça. Ensuite, on en a joué, et j'en joue aussi dans les voix off, etc. Mais c'est cet artiste qui a créé ce remix, qui a été vu des dizaines de millions de fois, à travers cette expérience au conseil avec la dénommée Laurence, cette prothésiste angulaire suisse.
Ah, vous souvenez bien de son CV.
Je me souviens très très bien de son CV, et voilà, c'est rentré dans la mémoire. Que... Mais vous voyez, je suis descendu de ma moto ce matin, je suis tombé sur un jeune qui m'a dit « Denis, tu peux me faire le A ?»
Ah, vous pourriez me le refaire encore ?
Allez, pour vous Mathilde.
Ah ! Il est tellement bon.
Je pensais pas vous mettre en joie à ce point-là.
Mais vous l'utilisez, vous en riez, et vous l'utilisez dans la vie aussi, je crois, quand on vous raconte des bêtises, vous le faites avec vos enfants, enfin voilà,
ouais.
vous l'avez intégré. C'est devenu un gimmick qui a été fabriqué, on va dire, par sa résonance sur les réseaux,
ouais.
puis que vous avez repris.
Bah, ça m'amuse, parce que c'est rigolo, mais je pense pas qu'avant, justement, ce remix et cette caisse de résonance, c'était un vrai tic de langage. Ça le devient un petit peu aujourd'hui. Et c'est vrai que quand par hasard, je le dis dans une phrase avec des gens, les gens... Ah, le A de Denis.
Il y a l'idée quand même qu'il y a un double numérique de vous maintenant, donc que vous êtes un mème, que vous êtes un gif, comme on dit dans la culture d'Internet. Il y a quelque chose donc qui vous survit, de toute façon, après Koh-Lanta, c'est rassurant.
Alors, franchement, c'est ni rassurant ni inquiétant. Je pense que je bénéficie aussi de la notoriété incroyable, du succès longue durée de Koh-Lanta. Alors forcément, comme à part là, sur la première saison, et je pense à Hubert Auriol qui présentait la première saison, j'ai présenté toutes les autres. Et forcément, ce serait triste qu'après 24 ans, il n'y ait pas un petit quelque chose qui reste. Mais ce n'est pas du tout mon objectif. Mon objectif, c'est de continuer, comme disent les jeunes, à kiffer au quotidien sur les tournages.
Mais on peut quand même dire, Denis Brognard, que vous êtes hyper hypochondriaque, que vous êtes un super angoissé de la mort, que vous avez grave le vertige, ce qui vous disqualifie pas mal pour l'épreuve des poteaux. et qu'au fond, vous êtes aussi un croyant. Est-ce qu'il y a quelque chose dans Koh-Lanta qui met à distance cette angoisse finalement que vous avez permanente?
Je pense que dès l'instant que je suis en activité, ces angoisses, elles s'estompent, elles sont un peu plus au-dessus de moi, et c'est sans doute aussi pour ça que je suis un hyperactif, mais j'essaye de me soigner. Vous voyez, quand je suis sur le 14 juillet, pendu sous un hélicoptère avec les militaires français, j'essaye de soigner ce vertige. Effectivement, je suis hypochondriaque, mais j'ai envie de dire qu'en vieillissant, je le suis de moins en moins, et puis j'essaye surtout de ne pas ennuyer les autres avec ça, mais forcément, quand j'ai mal à la tête, je me dis « Ouh là 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 !» Et si c'était grave, avant de penser à prendre un Doliprane.
Il y a beaucoup de rituels dans Koh-Lanta. Koh-Lanta est en soi un rituel devant la télé. Vous avez photographié des rituels dans votre livre « Mes photos du bout du monde » sorti chez Flammarion l'année dernière. Quelle place ont les rituels dans vos vies, Denis Brognard ? Je dis vous parce qu'il y a le public.
C'est important. J'ai le rituel de la famille qui est la base de ma vie, qui est le socle, c'est-à-dire des moments de retrouvailles qui sont... parfois de plus en plus éloignés, avec des enfants qui sont de plus en plus grands et de plus en plus autonomes et indépendants. Voilà, mais Koh-Lanta, vous l'avez dit, c'est un rituel. Quand je pars en tournage, c'est 40 jours où les échanges, la communication est différente, avec les décalages horaires, avec...
Le sport, c'est votre rituel absolu.
C'est obligatoire, quasiment au quotidien. J'en ai besoin, c'est ma soupape de décompression. Vous savez, la cocotte minute, si vous enlevez pas la soupape, ça explose. Moi, j'ai besoin du sport.
C'est combien d'heures par jour ?
Oh, c'est 5 fois par semaine.
Est-ce que vous allez dire, oh, c'est 5 heures bon.
Non, c'est 5 fois par semaine, mais ça dépend. Quand je fais du vélo, c'est 3 heures. Quand je fais de la course à pied, c'est 1 heure.
Et je rappelle que vous êtes journaliste sportif, que vous êtes passé ici par Radio France, que vous avez été aussi repéré à Europe 1, que vous avez à un moment même été brièvement directeur marketing commercial pour Nike, mais vous êtes vite revenu, heureusement pour vous.
Ça a duré quelques jours.
Voilà, vous avez couvert la Coupe du Monde 98.
Ah ouais.
J'ai hâte de vous retrouver, en tout cas, je pense, comme tout le monde, Denis Brognard, dans Koh-Lanta, les reliques du destin. Nouvelle saison diffusée tous les mardis à partir du 3 mars sur TF1 à 21h10. Votre livre « Mes photos du bout du monde » est publié chez Flammarion. Bonne route à vous, Denis.
Merci, merci Mathilde. Et ma sentence est...
irrévocable.
Voilà.
C'est parti maintenant pour le magnifique jardin d'hiver. On va se prélasser sans aller jusqu'au Pacifique avec Henri Salvador sur France Inter.
Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre. Nul ne peut nous entendre. Je voudrais du Fred Astaire, revoir un latte cœur. Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Je veux déjeuner par terre comme au long des golfes clairs, t'embrasser les yeux ouverts dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre. Nul ne peut nous entendre.
Une chanson coécrite par Kerenan et Benjamin Biolay, portée par la douceur infinie d'Henri Salvador, Jardin d'hiver. C'était en l'an 2000. Nous sommes maintenant dans le deuxième quart du 21e siècle. Vous écoutez France Inter et nous sommes ensemble jusqu'à 10h dans le mag de la grande matinale avec Charline Vanhoenacker à 9h45. Bonjour Charline.
Bonjour la France Inter. Écoutez, j'ai préparé une chronique politique, mais je vous propose Mathilde de choisir trois mots que je vais glisser dedans.
Allez-y. Alors, choucroute. Albatros, sinécure.
Oui, on avait dit de poireau, patate, chou-fleur.
Ah bon, j'étais
merci,
pas au courant.
Je dois tout réécrire. Merci.
Je suis désolée.
Elle m'a eu.
Merci. Alors, et puis un garçon qui pourrait bien repartir avec au moins César ce soir, c'est Hugo. Bienvenue pour son fantastique film d'animation Arco, qui est en lice dans 4 catégories. On le réécoutera dans Nouvelle Tête au micro de Daphné Burki, mais il est 9h31, c'est l'heure du débat du jour sur France Inter. Qui mérite le César du meilleur film. Pour Le Parisien aujourd'hui en France, qui a fait son palmarès ce matin, c'est L'attachement de Karine Tardieu. Pour Le Figaro, qui invente ses propres catégories, il s'agirait plutôt de décerner le César du meilleur film sans Bastien Bouillon ni Laurent Lafitte, ou celui de la meilleure comédie non snobée par l'Académie. À la une de Télérama, on se demande même où les nouvelles têtes seront dans le cinéma français. Les Césars sont toujours une photographie du 7e art et de la société. Qu'est-ce qui s'en dégage cette année pour la 51e cérémonie des Césars, avec Camille Cotin présidente, Benjamin Laverne directeur de cérémonie et Jim Carrey en invité d'honneur. Splendide ! Et à qui remettons-nous le splendide César du meilleur film ce matin ? Qui le mérite absolument ?
France Inter, la grande matinale, Mathilde Serrel.
On va en décider et en débattre avec Laurent Delmas, journaliste et critique à France Inter. Bonjour.
Bonjour Mathilde.
Et Ariane Allard, critique de cinéma à la revue Positif.
Bonjour.
On vous écoute aussi régulièrement dans Le Masque et la Plume. Alors, une question pour démarrer. Que représentent les Césars quand même ? Parce qu'il y a un côté policier, il y a un côté peut-être que ça n'intéresse pas spécialement tout le monde dans le paysage audiovisuel français. Qui va regarder ce soir ? Il récompense toujours une certaine photographie assez restreinte de ce qui sort chaque année, ou est-ce que ça se démocratise un peu, Laurent Delmas ?
Oh, en tous les cas, c'est un spectacle. La meilleure preuve, c'est que pour la première fois de son histoire, le jour de la soirée a été décalé au jeudi, et non pas au vendredi, pour ne pas faire concurrence avec un autre spectacle qui draine les foules, qui sont les Enfoirés.
Ouais.
Donc de ce point de vue-là, le côté spectaculaire est acté par tout le monde. Le côté télévisuel, c'est d'abord effectivement un spectacle pour dépasser précisément, je pense, le côté un petit peu la famille qui regarde la famille, quoi. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une petite bulle. Il faut juste rappeler à nos auditeurs qu'il y a 4951 votants. Hein, c'est tout, il y a 4951 personnes.
On sent que
je ne dis pas juste, c'est pas des votants, c'est des inscrits. Combien de votants il y a là-dedans ? Il y a une certaine opacité, hein, on sait pas trop. Bon, il y en a un peu plus d'un ou deux, rassurons-nous, mais quand même tout
mais
ça.
Mais chaque année, on peut pas le remettre en question finalement, on fait avec.
On fait avec. Mais tout ça fait pas bien lourd par rapport aux millions de spectateurs que drainent certains films. Bon, voilà. Mais il faut juste relativiser en introduction. Et puis après dire que c'est toujours plaisant. De toute façon, la compétition, elle est là. Elle est là toutes les semaines au box-office. Ça fait partie du cinéma, ça fait partie du jeu qui, comme chacun le sait, est aussi une industrie. Donc c'est une façon d'envisager les choses. Faut juste pas oublier l'artistique dans ces cas-là.
Oui, et puis le César du meilleur film snobé par l'Académie dans les trophées qui sont décernés par Le Figaro ce matin, c'est une manière de dire que ça s'est pas encore assez ouvert, en tout cas dans la sélection par rapport aux entrées en salle.
Oui, la petite réserve, c'est que je pense que Le Figaro vise par exemple Un ours dans le Jura de Franck Dubosc. Eh bien, il est nommé parmi les 5 retenus au second tour pour le prix du meilleur scénario. Donc, comme quoi, les idées reçues, tout ça, le fait que l'Académie s'ouvre pas, c'est pas si simple que ça.
Justement, Ariane Allard, vous voyez les lignes bouger, vous, dans cette édition ?
Moi, j'ai l'impression que, quand même, c'est beaucoup de ce qu'on a appelé un temps, enfin, c'est Pascal Ferrand qui avait trouvé la définition, ce qu'on a appelé les films du milieu.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est à la fois des
comme films... Comme il y a des livres du milieu.
Voilà, exactement. Et je pense qu'on reste toujours dans cette constante. Alors, peut-être expliquer ce que c'est que les films du milieu.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est des budgets qui sont quand même relativement conséquents, mais qui n'ont rien à voir avec les budgets hollywoodiens, par exemple, mais qui tournent entre 3 et 10 ou 15 millions d'euros.
Ça baisse, hein ?
Oui, ça baisse, bien sûr.
Ouais, ouais.
Mais la moyenne,
c'est malheureusement, ça baisse.
Voilà, ça baisse. Et puis qui se situent entre eux, enfin c'est autorisant, mais en même temps ça se destine quand même à un public plus large que le seul créneau des cinéphiles hardcore. Voilà. Et on les retrouve, je trouve.
Hardcore. Voilà. On peut traduire vénère.
Oui, en tout cas,
exigeant,
pur et exigeant,
dur.
Exigeant,
oui, et dur. Voilà.
Oui, oui, oui.
Voilà, exactement. Alors, il y a 5 films sélectionnés dans la catégorie meilleur film. L'attachement, Dossier 137, Nouvelle Vague, La Petite Dernière et Un Simple Accident. Parmi la liste, quel est votre film favori ? À l'un comme à l'autre, on peut peut-être commencer avec vous, Laurent Delmas.
Ah.
Je crois savoir que c'est le grand favori.
J'aurais volontiers donné la parole.
Ah bah alors, on doit très bien.
Mais non, je plaisante.
Peu importe.
Non, pour moi, c'est
le grand favori, celui qui a le plus de nominations.
Alors, oui, mais je ne vole pas au secours de la victoire qui n'aura peut-être peut-être pas lieu d'ailleurs, parce qu'il faut se garder de tout pronostic hasardeux. Je suis en tous les cas d'accord avec les 4951 votants pour mettre très en avant Nouvelle Vague de Richard Linklater.
Vous nous rappelez ce qu'est Nouvelle Vague?
Mais oui, bien sûr, c'est un film sur un film.
Voilà.
C'est un film sur un chef-d'œuvre qui s'appelle À bout de souffle, dont on ne mesure pas bien peut-être en France le poids qu'il a, par exemple aux États-Unis. Il n'y a pas un cinéaste américain qui ne cite À bout de souffle de Godard.
J'ai l'impression qu'Ariane Allard peut faire une incise.
Oui, en fait, on ne mesure pas le poids d'À bout de souffle. Attends, il est enseigné dans toutes les facs, dans toutes les écoles de cinéma en France. On en reparle. Faut quand même
mais c'est un Américain qui le fait.
C'est un film qui est sorti en 1960.
Et signé Jean-Luc Godard avec Jean-Paul Belmondo.
Et effectivement, ça a complètement révolutionné, notamment le montage des films, l'art du montage, mais pas que.
Non.
La façon de filmer aussi. En même temps, on présente ce film comme étant l'entrée dans la nouvelle vague. Il y a quand même eu, juste avant, Truffaut et ses 400 coups, Chabrol qui avait fait deux films. Et Agnès Varda, en 1955, qui a fait La Plaine Courte.
Donc tous ces films
ont quand même annoncé, si ce n'est ancré déjà la nouvelle vague. Godard a révolutionné la forme, mais il fait partie. Je dirais que c'est un des chaînons forts de cette nouvelle vague, mais il faut arrêter. Donc le culte de Godard en France, tout va bien pour lui. Et en plus, c'était une espèce de dieu quand il était vivant. Aujourd'hui, c'est un mythe. Donc tout va bien.
On parle suffisamment, Laurent Delmas.
Mais c'est pas, on parle de tout.
On mesure bien la portée.
Ce qui est très intéressant, c'est que c'est fait par un Américain.
Un Texan.
Alors en ce moment, je trouve qu'on a besoin de beaux dialogues franco-américains, hein, vu ce qui se passe par ailleurs. Donc moi, je trouve ça très très bien qu'un cinéaste américain se retrouve parmi les 5 films nommés au César. Alors produits certes par des producteurs français, Laurent Pétain et Michel Halberstadt, avec des acteurs français,
en
langue française. Tout ça est très bien, mais quand même, la dimension américaine, moi, elle m'importe. Et par ailleurs, je trouve que c'est un formidable hommage à ce film. Je trouve que Ariane relativise quand même un petit peu son importance par rapport aux films de Truffaut et aux films de Chabrol qui étaient classiques dans leurs propos et dans leur forme, alors que le
film
Chabrol
de Godard... Non, Chabrol n'était pas classique, Ariane.
Ça n'a rien à voir avec ce que fait Godard à l'époque. Rien. Et chacun le sait bien, mais après, on peut
c'est
adorer
un film
Chabrol
sur un
comme
film
moi.
Et une déclaration d'amour que
c'est une formidable déclaration d'amour au cinéma, mais qui donne aussi, je trouve, un peps, un allant. Moi j'étais dans un état d'euphorie après avoir vu ce film, parce que c'est vrai que c'est beau de voir à quel point les choses peuvent marcher d'un projet brinque-ballant fait de briquet de broc avec des talents émergents, avec des gens qui n'y croient pas. Belmondo, il disait à sa femme en rentrant chez lui...
Donc là, vous parliez du premier film,
tout ça infuse sur le film de Linklater. C'est ça qui est formidable, c'est qu'il a réussi, Linklater, à revivifier ça, à remontrer ça. C'est très compliqué d'aller dans les souvenirs, d'aller dans la nostalgie et de la faire émerger sans l'ombre, évidemment, de pathos, n'en parlons même pas, mais sans l'ombre d'une facilité. Et moi, ça m'a énormément plu, ça m'a énormément touché.
Ariane Allard, pas du tout,
pas
il
du
me
tout.
Semble.
Non. Vraiment, j'ai trouvé que c'était un film sympathique, agréable à regarder, que je trouve assez anecdotique.
Vous avez parlé de carte postale.
Oui, alors peut-être pas carte postale, mais anecdotique. C'est un film qui est, en fait, c'est un film qui est sur l'image et surtout sur l'imagerie.
C'est pas quand même. Hein.
C'est un film qui se reste juste à la surface de l'image et de l'imagerie. Le problème de ce film, à mon sens, hein, c'est que ces images, on les connaît par cœur et qu'elles sont tout le temps là. C'est plus que des images d'ailleurs originelles, c'est des images totems pour tous les cinéphiles. Parce qu'il faut quand même être très lucide. Ce film s'adresse essentiellement aux cinéphiles.
Il y a des gens qui
s'adresse essentiellement aux
cinéphiles. Quelqu'un n'irait pas voir justement
Et je pense que ce film,
il
l'a peut-être déjà vu avant. Et toutes ces images, on les connaît par cœur. Et moi, pendant tout
vous
le film, en tout cas une grande partie du film, j'avais envie de faire le point sur ces images parce que je les trouvais un peu floues, un peu approximatives, un peu cheap aussi, par rapport à toutes les images qui existent, qu'on connaît, d'À bout de souffle, mais aussi de la bande des Cahiers du cinéma et de tout ça. C'est des images qu'on connaît vraiment très très bien. Moi, je pense que ça reste un film agréable à regarder, qui s'oublie assez vite, qui n'a absolument pas ni la vibration, ni la transgression, ni l'insolence des images de Godard.
Moi, j'adore la façon dont Positif, à travers les
Ariane
siècles,
Allard, en tout cas, ne décerne pas.
Siècles, revisite et l'histoire du cinéma et la querelle.
Je ne représente pas Positif à moi toute seule.
Non, d'accord, mais la querelle, moi, j'adore.
C'est ce serait un peu plus somptueux.
Non, c'est très beau.
Bon, alors, en tout cas, Ariane Allard ne remet pas son César du meilleur film. On l'aura bien compris. À Nouvelle Vague de Richard Linklater. Et vous, oui, Laurent Delmas. Alors, passons aux autres favoris. Il y a aussi Dossier 137 de Dominique Moll, L'attachement de Karine Tardieu. Je disais qu'il y a le César, en tout cas, dans le palmarès du Parisien. Et donc, alors, Dossier 137 raconte une enquête IGPN sur une bavure policière en marge d'une manifestation de gilets jaunes. Il s'inspire de faits réels survenus en 2018. Il y a une dimension très documentaire et ce qui mérite un César du meilleur film malgré tout. Bah, je commence peut-être par vous, Ariane Allard.
Oui.
Je vous sens motivée.
J'aime pas qu'on m'attaque. Après, je trouve que tous les films qui sont dans cette catégorie méritent de toute façon, pour une raison ou pour
les
une autre.
Pour le
voilà, les cinq. À part Nouvelle Vague, on l'a compris, je ne vais pas revenir là-dessus, on ne va pas s'attarder là-dessus.
Ça devient nerveux.
Mais voilà, donc, moi, je trouve que chacun de ces films a une raison de recevoir ce... Voilà, il n'y en a pas un qui se distingue forcément de façon absolument définitive par rapport aux autres. Pourquoi j'aime le film de Dominique Moll ? Parce qu'il a choisi de faire... D'abord, de revenir sur un sujet extrêmement contemporain, contrairement à l'autre. Donc, et qui, d'ailleurs, ça se voit au niveau des chiffres d'entrée. Le film de Linklater a fait 130 000 entrées.
Celui de Dominique Moll. C'est le côté passéiste aussi. Enfin, bien sûr.
Les gens vivent dans une société extrêmement complexe, chaotique, brutale, violente. Et on leur parle, c'est très bien, d'un temps qui, où c'était la légèreté, l'innocence.
Le cinéma, il n'y a pas de mal.
Le film de Dominique Moll, c'est quoi ? C'est un sujet sur les violences policières lors d'une manifestation des Gilets jaunes en 2018. Et c'est l'enquête d'une policière qui fait partie de l'IGPN, donc de la police des polices. Voilà, ça, c'est le sujet. Évidemment, qu'on est concerné. Évidemment qu'on a envie de le voir. Et d'autant plus...
Et avec un César peut-être à la clé pour Léa Drucker en meilleure actrice, parce qu'elle est formidable.
Parce que c'est un film qui sonde ce qu'on appelle le point de vue au cinéma, c'est hyper important. C'est-à-dire que cette femme, elle va recueillir un maximum de documents, d'enregistrements, elle va recevoir des témoins qui chacun vont donner leur version des faits. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit si peu aujourd'hui dans une société si polarisée. Et je pense que c'est aussi pour ça que ce film est intéressant.
Alors, il nous reste très peu de temps. Ce serait un problème, en tout cas, si Linklater l'emportait ou Jafar Panahi, par exemple, dans la catégorie du César du meilleur film.
C'est un débat un peu compliqué. Ce qui est intéressant quand même, je crois que c'est ça qu'il faut noter, c'est qu'effectivement, 5 films nommés, 2 films réalisés par des étrangers. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'influence économique du cinéma français, de la production française, elle est si importante qu'au bout du compte, dans les meilleurs films, on retrouve 2 films faits par des étrangers. Ça, c'est extrêmement important.
Et 2 films réalisés par des femmes aussi, il faut le citer, parce que c'est pas si souvent que ça arrive.
Et à un moment où le cinéma reçoit des coups de butoir, et ben c'est toujours important de dire la façon dont le cinéma français envisage la production de façon aussi internationale. Voilà.
D'un mot quand même, il faut qu'on parle de Karine Tardieu, avec L'attachement qui dépeint avec tendresse une nouvelle manière de faire famille entre voisins notamment. C'est un film très grand public qui pourrait avoir ses chances, Ariane Allard.
Oui, moi je pense, oui, vraiment. Je pense parce que d'abord c'est un film qui est toujours dans la délicatesse, dans la retenue, qui parle de sujets qui sont très forts, qui sont le deuil, qui sont aussi le lien, comment faire famille, c'est-à-dire choisir sa famille, pas nécessairement les liens du sang. C'est fait avec beaucoup de finesse, avec de grands acteurs. Pio Marmaille et Valéria Bruni-Tedeschi sont remarquables parce que Karine Tardieu a toujours été, quoi qu'on pense de son cinéma, une grande directrice d'acteurs. Elle le prouve une fois de plus. Et puis, voilà, c'est un film émouvant, mais qui n'est jamais dans le pathos. C'est un film où il y a du cinéma, il y a de la mise en scène, mais qui s'appuie effectivement sur un scénario que je trouve très solide et très subtil.
Merci Ariane Allard, on vous lit donc dans les colonnes de Positif. Quant à vous Laurent Delmas, on vous retrouve en critique et journaliste sur France Inter. Et Ariane Allard, vous faites aussi quelques incursions dans Le Masque et la Plume, chez l'ami Rebecca Manzoni. Bon, bah, on regarde ce soir, on en saura plus. En tout cas, il sera peut-être question d'absence de nouvelles têtes aussi dans le cinéma français.
Bah oui.
Autre débat. Merci à tous les deux.
Merci.
Tout de suite, le choix de la grande matinale sur France Inter. Ils s'appellent Bar Italia, mais ils viennent de Londres. Le trio rock qui a sorti un nouvel album fin 2025 et qui le présente ce soir à Paris, à l'Élysée-Montmartre. On voudrait aussi signaler que ce soir, à Verzy, pour la petite dernière heure aussi, ses chances pour le César du meilleur film, et elle aussi le mérite. Il est 9h47, merci d'écouter France Inter. Et Charlie Vellenecker est bien installé dans le studio. Un appel a été lancé à manger des poireaux, des patates et des choux-fleurs pour venir en aide à la filière en raison d'une surproduction, Charlie.
Eh oui, le chou-fleur qui s'invite dans le débat. Ça, on ne l'avait pas vu venir. Hein. Et là, je peux vous dire que Sarah Knafo, elle ne va pas se faire avoir deux fois. Hein, elle sait très bien que le prix d'un chou-fleur, ça dépend du nombre de fleurs. Alors, en raison de la douceur du climat, les légumes d'hiver ont poussé d'un coup et la surproduction est en train de fragiliser la filière. Donc, le citoyen est encouragé à les consommer. Le monde est mal fait. Si seulement on pouvait rembourser la dette avec des poireaux. Mais on fait face à une pénurie d'œufs et un trop-plein de légumes. Et ça va être chouette les ateliers pâtisserie du mercredi après-midi. Les enfants, après la farine, vous ajoutez 300 grammes de poireaux. Mais on met pas deux. Écoute, Titouan, t'es patriote ou t'es pas patriote? Je vois Delmas qui salive pourtant. Autant la pénurie d'œufs et d'huile, on peut mettre ça sur le dos du ramadan. Mais l'excès de poireaux, même si News n'a pas encore réussi à faire le lien avec l'islam. Ah, mais oui, alors que si les Arabes mettaient des poireaux dans le couscous...
On est en roue libre là, Charlie.
Non mais on s'en fout, Mathilde. Il n'y a pas de directrice à France Inter en ce moment. La nouvelle, elle arrive la semaine prochaine, profitez-en.
Ah, on fait n'importe quoi.
Oui, tout le monde en profite. Hier soir, le sujet du téléphone sonne, les Pokémon. Mais c'est vrai, non mais c'est vrai en plus.
Bon, on se fait plaisir.
Et oui, la moitié de la France est en vacances et il n'y a même plus de ministre de la Culture. Allez, venez demain, on amène nos jeux de société. Dominique Seux, il a ramené son Monopoly, mais il n'y a personne qui veut jouer avec lui. Non mais attendez, mon sujet conso, il est intéressant. Regardez, entre un titre sur la guerre en Ukraine, un autre sur la montée du fascisme, on lit « Alerte sur les poireaux ». Ça pique la curiosité quand même. Hein ? Ali, d'habitude, pendant mes chroniques, il rigole. Regardez, là, il prend des notes pour ses émissions. Alors, la grande distribution qui incite le consommateur à manger des légumes d'hiver pour soutenir les agriculteurs, j'ai mis « grande distribution » et « soutenir les agriculteurs » dans la même phrase. Notez cette date, ça n'arrivera plus. Alors, l'opération se traduit par une théâtralisation en magasin. Donc, sur les légumes, c'est vrai qu'on ne peut pas parler d'achat coup de cœur. Donc, on suscite le désir. Hein, voilà, pour deux dentifrices achetés, un poireau offert. Pourquoi il n'y a jamais d'excès de production sur les trucs hyper bons à manger? Ah, Laurent, on est d'accord. Oh là là, encore des noix de Saint-Jacques.
Laurent Delmas, il n'a pas quitté le studio.
C'est la sixième fois cette semaine, les noix de Saint-Jacques. Écoute, il faut soutenir les pêcheurs. Et ce soir, on soutiendra la filière truffe parce que ça ne va pas faire.
Oh, mais c'est cher, voilà. Ça.
Alors, il faut rendre... Oui, c'était la blague. merci Mathilde, pas d'initiative. Alors, il faut rendre les légumes d'hiver plus tendants. Hein, créer des trends TikTok avec le poireau, je suis au top de mon flow. Hein, c'est dommage parce qu'on a loupé le coche, mais c'était la Saint-Valentin, c'était l'occasion de lancer le slogan « Dites-le avec des choux-fleurs ». Alors vous avez raison, Mathilde, je suis en roue libre. Vous voyez, ça me manque de ne pas avoir de direction à France Inter. Le journal Le Parisien, lui, il ne va pas par quatre chemins sur le sujet. Hein. Il dit « Si la douceur freine votre envie d'en déguster en soupe ou en gratin, osez-les en salade ou en vinaigrette ». Vous bossez au Parisien, Ali ?
Non, pas du tout. Pourquoi ?
Non, pour rien. Alors, j'espère quand même vous avoir convaincu que le poireau, c'est politique. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, rappelez-vous qu'il y a 30 ans, un président a été élu en disant « mangez des pommes
». Merci, Charline Vanhoenacker. Ça vous va très bien, cette vacance, en tout cas. On va écouter Daphné Burki avec une nouvelle tête qui peut-être décrochera ce soir le César du meilleur film d'animation. C'est Hugo Bienvenue.
La grande matinale sur France Inter.
Il est 9h50.
19h50 et nous sommes en direct dans le studio de la grande matinale de France Inter. Ma nouvelle tête s'appelle Hugo Bienvenue et son œuvre, un film d'animation, Arco. Arco, c'est le prénom du personnage principal de ce film, un garçon tombé du ciel, porteur de lumière et de futur. Mais Arco, bah, c'est aussi l'arc de Hugo Bienvenue. Il vient, je crois, de toucher juste dans le mille avec ce film qui sort le 22 octobre. Chers auditeurs, parler d'une telle œuvre en quelques instants, ça va être un poil frustrant tant ce récit est poétique et important, je le crois. Alors déjà, je vais vous présenter le créateur Hugo Bienvenue. C'est un humain bien en place, c'est un adulte, mais vous le verrez si vous regardez la vidéo, il a une tête d'enfant qui a déjà exploré tous les terrains. La bande dessinée, une dizaine d'albums, dont Préférence d'ailleurs Système, Grand Prix de la Critique à Angoulême en 2020, le court-métrage, la mini-série d'animation, le clip, bref. Voilà Arco, son premier long-métrage d'animation, couronné directement de la plus haute récompense du Festival d'Annecy, le cristal du long-métrage. Alors juste avant de lui dire bonjour, écoutez et d'écouter quelques sons, je voudrais faire une petite dédicace. Je voudrais remercier la maman du petit Hugo qui, le voyant hyper malheureux dans le système scolaire, a ouvert une fenêtre et l'a inscrit dans une école d'art dès le lycée. S'en est suivi les Gobelins, puis le CalArt, ce qui, pour un dessinateur français, revient à décrocher le ticket pour la NASA du crayon. Tout ça fait que Arco existe aujourd'hui. Bonjour Hugo, bienvenue et bienvenue sur France Inter.
Merci beaucoup.
On atterrit tranquillement et je vous raconte le synopsis de ce film merveilleux. On est en 2075, il y a une petite fille de 10 ans, elle s'appelle Iris, elle voit un garçon vêtu d'une combinaison arc-en-ciel tomber du ciel, c'est donc Arco. Il vient d'un futur lointain et idyllique, d'où c'est possible de voyager dans le temps. Iris, elle le recueille, elle va l'aider par tous les moyens à rentrer chez lui.
Mickey ?
Je commençais sérieusement à m'inquiéter.
Qu'est-ce que ça peut être ?
Aucune idée.
À mon avis, c'est un magicien. Ou peut-être un ange. Comment tu t'appelles ? Moi, c'est Iris. Arco. Mais tu viens d'où ?
Eh ben chut, parce que justement le point de départ de cette aventure, il s'est joué pendant le confinement. Vous dessinez en moyenne 11 à 12 heures par jour et puis il y a un personnage qui est apparu sous votre crayon. Un personnage où il y avait un arc-en-ciel qui se dégageait. Vous l'avez envoyé à Félix, votre associé. Il y croit et 5 ans plus tard, le voilà. Qu'est-ce qui fait que vous avez cru en lui, Hugo, dans ce petit personnage ?
Il est né de mon inconscient et souvent l'inconscient, je trouve qu'il produit des choses qui sont compliquées et qui sont belles et qui comptent pour le monde plutôt que la réflexion. Voilà, alors que la réflexion, ça aboutit à des résultats numéraires, alors que la pensée, ça aboutit à des choses qui, je pense, sont ce qui manque aujourd'hui.
Mais représente quoi, Arco, pour vous ?
L'espoir, la légèreté, le bonheur de vivre aussi. Et j'avais besoin de ça, j'avais besoin de rappeler que c'est important de suivre ses désirs, ses envies dans le monde. Et que, parce qu'aujourd'hui, à ce moment-là, le monde n'allait pas très bien. Je ne voyais pas comment il allait beaucoup mieux. Et je me suis dit, je vais essayer de faire un gros câlin parce que j'en avais besoin.
Il y a Arco, bien sûr, hein, ce jeune garçon tombé du ciel. Mais il y a aussi Iris. Et Iris, c'est un peu le point central d'une cellule familiale qui existe presque pour de faux. Ses parents, il communique avec elle par hologramme, elle s'occupe de son petit frère, elle est aidée par un robot, elle dessine, elle invente, elle est très adulte pour son âge et surtout elle veut changer les choses. C'est une bonne humaine, comme on dit dans le film. Et je me suis demandé si vous n'étiez pas un peu Iris quand même, Hugo, bienvenue.
C'est marrant parce que, en tout cas, je me disais, j'avais envie d'avoir un enfant et je l'ai un peu imaginé comme ça. Et voilà, donc je lui ai donné un peu les traits de ma femme aussi. Et il se trouve que Peter aussi, il ressemble à mon fils alors que je l'ai eu au bout de 4 ans après avoir démarré le film. Mais je pense que je suis un peu dans tous les personnages du film, si je suis très honnête.
Arco, c'est un film d'adulte, mais qui regarde le monde à hauteur d'enfant et se demande qu'est-ce qu'on va laisser de notre humanité derrière nous. Vous, Hugo, vous faites partie de ces artistes qui parlent du futur sans désespérer le présent. Merci. Chez vous, les robots, ils rêvent d'humanité. La nostalgie, c'est pas une faiblesse, c'est même un espèce de muscle hyper puissant du futur. Vous dites que vous vouliez donc faire un gros câlin. Vous pensez aux auditeurs là, qui nous écoutent, à qui je conseille fortement ce film. Qu'est-ce que vous voulez leur procurer ?
Déjà, je voulais faire un film qui soit agréable à regarder, qui soit une aventure et je sais pas, enfin comme les films qu'on a aimés quand on était enfant, les grandes fresques et surtout un film où on passe par des émotions et où on passe par le rire, les larmes et on le vertige, enfin voilà, et qui convoque notre sensibilité aussi.
Mais c'est vrai que quand on regarde ce film, on le vit à 100%. C'est un film en 2D. Il y a pas d'IA. En revanche, je pense à vous encore une fois, chers auditeurs, parce que ce qui fait du bien, c'est les les couleurs du film. Il y a des arcs-en-ciel, ok, mais pas que. Hugo, il a grandi un peu partout avec un père diplomate. Il y a du Guatemala, il y a du Tchad, il y a de la Bourgogne, il y a du Mexique dans ses couleurs. Et puis il y a ses influences, il y a aussi Miyazaki, le studio Ghibli. Il y a de la science-fiction, mais qui nous prend par la main, qui nous montre notre rapport au monde, à la nature, qui est très présente dans le film Marco. Mais l'animé qui lui a donné vraiment envie de dessiner, c'est celui-ci. Vous reconnaissez pas, c'est normal, c'est le générique originel de Dragon Ball Z. Et je suis comme ça, je suis une dingue. Vous n'avez plus jamais, plus. Je suis une... Je l'assume tellement. Vous n'avez plus jamais lâché le crayon après l'avoir vu, ce dessin animé, et dans vos influences, il y a aussi cette voix.
La belle histoire que vous allez écouter maintenant est arrivée un jour à Londres.
Oh.
Et pourrait bien recommencer demain à Paris, à New York ou bien à Tokyo.
C'est tellement agréable.
Ou bien ailleurs. Car il y a partout dans le monde des petits garçons et des petites filles.
Cette voix, vous l'avez reconnue. C'est un livre audio, Peter Pan, mais cette voix, c'est celle de Jean Rochefort.
C'est une Madeleine de Proust. Je me souviens, on avait la cassette et en fait, on voyageait beaucoup et souvent la nuit, mes parents aimaient bien prendre la voiture la nuit et ils nous mettaient cette cassette et c'était hyper réconfortant. Et je pense que c'est ce besoin de réconfort aussi dont j'avais besoin au moment de commencer le film et qui m'a guidé pendant tout, et d'essayer d'enlever tout le cynisme qui peut souvent y avoir dans les phases d'écriture. Ouais.
Raconter des histoires qui donnent un sens à ce bordel de vie, on le sait tous dans ce studio, nous journalistes, que c'est pas simple tous les jours de monter un film aussi ambitieux, aussi minutieux. Et ben, il y a une bonne fée qui s'est penchée sur la naissance de ce film, c'est Nathalie Portman.
Ouais, en fait, au bout de 3 ans, on a décidé avec Félix de faire une animatique pour que les gens comprennent le film, parce qu'on voyait que sur la base du scénario, ça n'opérait pas. Et au bout de 5 mois d'animatique, on avait 45 minutes à peu près, et là, on a contacté Jamil Chamazdine, qui est un ami commun, et il nous a dit, Nathalie, monte une boîte de prod avec Sophie Mass, ça vous dit que je les fasse venir. Elles sont venues le lendemain, et c'était parti, parce que elles ont le pouvoir de faire changer les gens d'avis. Les gens qui nous disaient, c'est impossible, ça n'existera pas. Le lendemain, il nous disait, c'est un film génial. Donc voilà. C'est vraiment des fées, quoi.
Oui. C'est vraiment une fée. Et puis, je tiens à préciser ce qui est, je crois que ça n'existe pas, un film d'animation 100% français. Tout a été fait en France, même dans un petit quartier de Paris. Si ce vêtement arc-en-ciel, il existe, vous pouvez l'enfiler. Vous pouvez voyager là, maintenant, dans le temps. Vous allez où, Hugo Berger?
Dans 20 ans, pour voir si j'ai bien fait le travail avec mes enfants. Voilà. Et pour pouvoir corriger si besoin.
La chanson qui vous aide à vivre, c'est celle-ci. Que sera, sera, par Doris Day. Et aujourd'hui, parce que j'imagine que ça représentait ces 5 ans de travail, est-ce que vous voulez faire une dédicace aujourd'hui à une personne en particulier?
À toute l'équipe du film, parce que sans eux, sans leur implication, ça aurait pas été possible, et sans leur dévouement aussi et leur énergie, et puis évidemment à ma femme, à Félix de Givry, à mes enfants, à Sophie Mass, Nathalie, enfin tout, Diafana, tous les gens qui nous ont en fait permis de faire ce film d'une manière ou d'une autre. Voilà.
Un film qui fait grand bien, il va y avoir un artbook. J'adore les artbooks, parce que c'est passionnant de voir les coulisses d'un film, ça se passe chez De Noël. Et je voulais faire un appel aux profs et aux écoles qui nous écoutent aujourd'hui, parce qu'il y a un projet pédagogique qui accompagne ce film Marco, que vous donnez volontiers, qui est assez extraordinaire, qui parle des changements climatiques, qui parle de la nature, qui parle d'aujourd'hui, qui parle du futur. Donc n'hésitez pas à faire cette sortie scolaire.
Merci à Hugo, bienvenue pour ce câlin cinématographique et radiophonique au micro de Daphné Burki dans Nouvelle Tête. Et merde ce soir pour les Césars, où il est nommé dans 4 catégories. C'est à 21h sur Canal+. La fin de la grande matinale, c'est maintenant. Mais vous restez à l'écoute, vous retrouverez Daphné Burki et Sonia De Villers et Charline Van Honecker dès lundi.